Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, chaque époque a ses pharisiens, toujours orgueilleux, toujours hypocrites, toujours hostiles à notre Seigneur Jésus-Christ, mais pour des raisons qui se renouvellent d'âge en âge. En effet, imaginez un instant que la scène que nous venons d'entendre dans l'Évangile soit transposée en notre 21e siècle. Notre Sauveur Jésus-Christ revient sur cette terre et voici qu'on lui amène, sur une litière ou dans une ambulance, un paralytique ou un malade d'une autre sorte. Que fait notre Seigneur ? Comme il y a 2000 ans, il lui déclare « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis ». Et comment réagissent les pharisiens de notre époque ? D'abord, comme il y a 2000 ans, ils s'offusquent, ils se scandalisent, ils murmurent, mais plus pour la même raison. Ils ne s'écrient pas d'un ton indigné « Cet homme blasphème !» parce que aujourd'hui, ils trouvent le blasphème tout à fait anodin. Certains d'entre eux prônent même le droit au blasphème. Et pour tout dire, ils ne se soucient plus aucunement de Dieu, comme malheureusement plus de la moitié des Français d'aujourd'hui. L'idée que Dieu existe, qu'il s'occupe des hommes et qu'il puisse être offensé par un blasphème est à mille lieues de leur pensée. Et précisément pour cette raison, ils ne pourront supporter que Jésus, face à un malade, s'occupe d'abord de son âme et lui dise « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis », sans même sembler s'occuper de la santé de son corps. Et bien sûr, ils murmureront, c'est dans leur nature, ils récrieront. Ils se récrieront comme leurs congénères d'il y a 2000 ans, mais pour une raison complètement contraire. Cet homme se moque, diront-ils, il se moque de la souffrance de ce pauvre malade et ne fait rien pour le guérir. En plus, il le traite de pécheur et lui laisse entendre qu'il a besoin du pardon de Dieu. Quelle intolérable atteinte à la dignité humaine. Faites lire, mes bien chers frères, faites lire cette scène de l'Évangile à l'un de vos voisins ou à l'un de vos collègues de travail. Vraisemblablement, le plus surprenant pour lui ne sera pas que Jésus prétende remettre les péchés, ce sera plutôt que Jésus fasse passer si nettement la santé de l'âme et la libération du péché avant la santé du corps. Car, évidemment, la première mission du Sauveur, c'est celle-là. Nous libérer du péché, nous réconcilier avec Dieu. Or, dans le monde actuel, rien ne manque autant que le sens du péché. Que le monde aille mal, beaucoup de gens le reconnaissent. Que notre société devienne de plus en plus folle et de plus en plus injuste, c'est une réalité qu'il est de plus en plus difficile à cacher. Mais que la source du mal soit précisément notre révolte contre Dieu et que la première justice, la plus importante, soit d'abord de ne pas offenser Dieu, voilà pour beaucoup une idée totalement farfelue. Et c'est pourtant le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Le grand mal, c'est le péché. Et si Jésus, sur cette terre, a aussi guéri les corps de certains malades, s'il a redonné la pleine santé à des paralytiques, des lépreux, des sourds, des aveugles, des hydropiques, etc., c'est pour mieux nous faire comprendre ce qu'il veut opérer dans notre âme. Essayons donc, mes frères, pendant quelques instants, de mieux saisir la gravité du péché. Et le premier obstacle, bien sûr, c'est que le péché n'est pas une réalité sensible. L'état de notre âme n'est pas une réalité qui puisse être perçue par les sens. Et Dieu n'est pas non plus une réalité sensible. et la gloire de Dieu en ce monde ne l'est pas davantage. Mais ce sont bien des réalités beaucoup plus solides, beaucoup plus subsistantes, beaucoup plus importantes que tout ce qui est sensible. Mais elles ne sont pas directement atteignables. Elles ne frappent ni nos yeux ni nos oreilles et ne peuvent être atteintes que par un effort d'intelligence. Faisons donc, mes frères, cet effort d'intelligence appuyé sur la foi. Et souvent, dans la journée, rappelons-nous que nos sens ne nous donnent accès qu'à la couche la plus superficielle de la réalité. Par exemple, nous voyons sur un écran ou même sous nos yeux une personne se tordre de douleur, nous entendons ses cris, ses gémissements. Immédiatement, notre sensibilité réagit et nous sommes émus de compassion. Nous pensons que c'est un grand mal, alors que ça n'est peut-être que du cinéma, sans aucune réalité véritable. Mais le son et l'image ont un énorme impact sur notre psychologie. Et si nous ne faisons pas un effort permanent pour dominer nos impressions sensibles, nous sommes incapables d'apprécier convenablement le réel. Souvent donc, dans la journée, élevons notre esprit vers Dieu en nous rappelant qu'il est le seul bien parfait et immuable, la seule réalité vraiment solide. Nous sommes faits par lui, nous sommes faits pour lui, et il ne peut y avoir de plus grand désordre que de nous soustraire à son plan. Ce mal ne frappe pas notre imagination parce qu'il n'a en soi rien de sensible. On peut pécher sans que cela déclenche aucune sirène hurlante, que ça ne suscite aucune décharge électrique, et même, apparemment, sans que ça fasse souffrir personne. Et c'est même là, mes frères, une objection assez courante. De toute manière, dit-on, de toute manière, Dieu ne peut pas souffrir. Comment donc serait-il affecté par nos désobéissances et même par nos injures? Il est bien au-dessus de tout cela. Il y a ici, mes frères, une part de vérité, comme dans toutes les objections. Il est vrai que Dieu, étant immuable, n'est en rien affecté par nos offenses. On dit parfois, par métaphore, que nos péchés attristent Dieu, ou qu'ils suscitent sa colère. Mais ce ne sont que des façons de parler. À proprement parler, il n'y a en Dieu ni tristesse ni colère. Dieu est à l'évidence infiniment heureux, et ce ne sont pas les criailleries des humains qui peuvent ôter quoi que ce soit à sa béatitude. Le péché ne nuit aucunement à Dieu, mais en revanche, il abîme considérablement sa création, et pas seulement à la surface, dans l'ordre matériel immédiatement perçu par nos sens, mais dans l'ordre fondamental du monde. Car, au-delà de l'ordre physique, il y a dans la création un ordre moral dont nous avons, en tant qu'hommes, une certaine perception. Et ça se remarque facilement. Si quelqu'un nous manque d'égard, ou bien manque de gratitude, ou bien manque de justice envers nous, nous nous sentons immédiatement blessés. Et nous ressentons très vivement l'humiliation, l'ingratitude ou l'injustice. Nous comprenons alors très bien, lorsque ça nous touche, qu'il n'existe pas seulement un ordre physique, mais aussi un ordre moral. Eh bien, mes frères, emparons-nous précieusement de ces moments où nous nous sentons ainsi blessés, non pas physiquement, mais moralement, et utilisons-les, non pas pour ressasser égoïstement notre peine, mais au contraire pour nous élever vers Dieu. Car cette injustice, cette ingratitude, cette offense, qui nous sont si sensibles quand ça nous concerne, c'est précisément ce que notre péché inflige à Dieu. Bien sûr, comme on vient de le dire, Dieu est trop grand pour en souffrir. Mais l'ordre moral du monde en est effroyablement abîmé. Et si nous pouvions voir la réalité comme elle est, nous autres humains ne pourrions pas y penser sans souffrir terriblement. C'est d'ailleurs précisément ce spectacle qui a provoqué la sueur de sang de notre Sauveur à Gethsémani, car Dieu, en s'incarnant, a voulu se rendre sensible à cette réalité et en a finalement porté lui-même la peine. Ici-bas, mes frères, nous ne pouvons pas comprendre la gravité du péché parce que nous ne pouvons pas comprendre la grandeur de Dieu. En revanche, nous pouvons nous en faire une idée en considérant la gravité de ses conséquences, et cela à trois niveaux. D'abord, tous les maux sur cette terre, conséquences du premier péché. Ensuite, l'agonie et la passion de notre Sauveur. Enfin, pour ceux qui refusent le plan de salut, l'éternité de l'enfer. Et nous avons là trois manifestations de la gravité du péché. Mais aujourd'hui, comme dans l'Évangile, Jésus nous déclare à chacun « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. » Allons donc avec confiance à notre Sauveur. Recevons avec reconnaissance le pardon qu'il nous distribue dans ses sacrements. Et demandons-lui, par l'intermédiaire de la Vierge notamment du rosaire, puisque nous allons entrer dans le mois d'octobre, de mieux comprendre la gravité du péché pour ne plus jamais y retomber. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.